Bien, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et soyez les bienvenus pour cette rencontre intitulée « Aux sources du djihadisme ». Ce sont deux romans et un essai qui vont nous permettre d'approcher ce sujet assez compliqué, mais dont nous allons tenter de tirer quelques fils et d'éclairer quelques aspects. Si vous me permettez, je vais commencer par faire des présentations rapides. Étienne Barillet, vous êtes essayiste, romancier et traducteur. Vous vivez en Suisse. Vous êtes l'auteur notamment de vos derniers romans « Ruiz doit mourir » et « Les cheveux de Lucrèce » qui sont parus aux éditions Buchet-Chastel, respectivement en 2014 et 2015. Auteur d'essais également, tels que « Contre le nouvel obscurantisme » chez Zoé en 1995, ou bien encore « Que savons-nous du monde » en 2012 chez le même éditeur. Et votre dernier livre, qui est un essai, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, s'intitule « Vertige de la force ». Il est publié chez Buchet-Chastel. Foi de la Rouy, économiste et écrivain né au Maroc, vous êtes ingénieur, vous avez dirigé une usine de phosphate dans votre pays avant de venir enseigner les sciences de l'environnement à Amsterdam et à New York également. Vous êtes aussi chroniqueur au journal Jeune Afrique. Parmi vos derniers livres publiés, je voudrais citer « Une année chez les Français », paru chez Julliard en 2010, « La vieille dame du Riad », également chez Julliard en 2011, « Le jour où j'ai déjeuné avec le diable », chez Zellige en 2012. En 2013, vous avez reçu le prix Goncourt de la Nouvelle pour « L'étrange affaire du pantalon » de Dassoukine, toujours chez Julliard. Et vous êtes également l'auteur d'un essai qui s'intitule « De l'islamisme », qui était paru en 2006, et que les éditions Robert Laffont viennent de rééditer tout récemment. Mais c'est de votre dernier roman dont nous allons parler aujourd'hui, qui s'intitule « Ce vain combat que tu livres au monde ». Il vient juste de paraître chez Julliard. Et puis Gilbert Sinoué, né au Caire, formé à la guitare classique, à l'École normale de musique, vous êtes l'auteur de nombreux romans historiques, parmi lesquels « Avicenne » ou « La route d'Ispahan », une biographie qui était consacrée au grand médecin persan, auteur aussi du livre de Saphir, ces deux livres étant publiés chez De Noël, auteur aussi du dernier Pharaon chez Pygmalion, ou bien encore de La nuit de Maritzbourg qui était consacrée à Gandhi. Après Le souffle du jasmin et Le cri des pierres, le troisième épisode de la série Inch'Allah vient de paraître et il s'intitule Les cinq quartiers de la lune. Et il est paru chez Flammarion. Alors le sujet étant relativement compliqué, nous allons tenter d'être clairs et d'être précis, enfin autant que faire se peut pour éclairer un petit peu les choses. Et il me semble que l'histoire va nous y aider. Il est probablement urgent de recourir à l'histoire si nous voulons comprendre un tout petit peu ce qui arrive à l'Occident depuis le début du 21e siècle, à savoir ces attentats commis depuis le monde arabe et revendiqués par des hommes qui disent agir au nom de Dieu. Et donc, je pense que grâce aux deux romans et à l'essai dont nous allons parler, quelques fils seront tirés, en tout cas, qui nous aideront à avancer dans la réflexion. Je voudrais commencer par la fiction. Foi de la Rouy et Gilbert Sinoué, vos romans ne se ressemblent pas du point de vue littéraire. En revanche, vous avez fait tous les deux le choix de décortiquer l'histoire, et notamment l'histoire des multiples malentendus qui se sont tissés au fil du temps entre le monde arabe et l'Occident. Alors vous le faites bien sûr par le truchement de personnages, puisqu'il s'agit de fiction, mais ce sont des personnages qui subissent les effets en fait, de ces malentendus. Je vais commencer par vous, Foi de la Rouy, parce que vous couvrez un spectre historique relativement large. Vous partez de la Première Guerre mondiale, en fait, avec deux aspects qui sont fondamentaux, d'une part Laurence d'Arabie, et puis d'autre part les accords Sykes-Picot qui datent de 1916, dont on sait relativement peu de choses ici, mais qui sont très importants dans l'histoire, et d'autre part le rôle de Balfour, qui était donc à l'époque le Foreign Secretary britannique, dont la fameuse lettre de 1917 a eu un impact considérable sur le XXe siècle. Pourquoi, Foi de la Rouy, ce début du XXe siècle est-il si important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui ?
Merci. Merci à vous tous d'être là. Alors, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la tête de quelqu'un qui va se radicaliser, qui va couper les ponts avec l'Europe, il faut bien comprendre qu'il y a deux récits du monde en ce qui concerne le XXe siècle. Évidemment, il y en a beaucoup plus que deux, il y en a 36, il y en a 36 000, il y en a peut-être autant que d'individus, mais il y a deux récits du monde qui sont fondamentaux et qui sont en train d'entrer en collision, comme dans la tectonique des plaques, quand il y a deux plaques qui rentrent comme ça en conclusion, ça fait des dégâts, ça fait des tremblements de terre, ça fait des choses comme ça. Le récit européen du monde, ou l'européo-américain du monde, c'est celui qu'on connaît tous, j'ai grandi, j'étais à l'école française, je n'entendais que ce récit, et c'est normal, chacun raconte son récit. Si vous regardez le récit du monde du XXe siècle, bon, on sait à peu près ce que c'est, bon, il y a eu la Première Guerre mondiale, personne ne comprend très bien pourquoi elle a eu lieu, il y a eu l'entre-guerre, puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 48, le miracle de la résurrection de l'État d'Israël, par exemple, et puis il y a eu la guerre froide, il y a eu les années 60, bon, le choc pétrolier, on peut raconter une histoire du monde du XXe siècle. Maintenant, si on regarde le récit arabe du XXe siècle, qui jusqu'à il y a 10-15 ans n'était pas du tout audible, puisqu'il n'y avait pas les chaînes satellitaires, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Donc un jeune Suisse, Français d'origine maghrébine ou arabe, il écoutait le récit américano-européen. Le récit arabe dit quelque chose de totalement différent, et si Noué le sait mieux que personne. Le récit arabe, il part par exemple de 1917, effectivement. Alors nous, on a tous vu le très beau film Laurence d'Arabie avec Peter O'Toole, et tout le monde est tombé amoureux soit de Peter O'Toole, soit de Omar Sharif dans le film, etc. Mais il faut aller au-delà du film. Que dit ce film, finalement? Il dit qu'il y a eu, en 1917, une promesse faite aux Arabes, parce qu'ils étaient sous le joug de l'Empire ottoman, qui était... combattez avec nous pendant cette Première Guerre mondiale, combattez avec nous les alliés, combattez le Turc avec nous, et vous aurez un grand royaume arabe, vous aurez l'indépendance. Ça, c'est la promesse de Laurence d'Arabie. En même temps, Lord Balfour, il fait sa fameuse lettre à Rothschild en lui promettant un national homeland, une patrie juive. En même temps, Saïx Picot, qui sont finalement des fonctionnaires, avec ce détail insolite que Picot, c'est le grand-oncle de Giscard d'Estaing. Mais peu importe, ce sont des fonctionnaires qui tracent des traits sur la carte en... là, je parle sous le contrôle de Gilbert, qui connaît très bien la question, qui tracent des frontières, là, une opération de dépeçage du... Alors, après la guerre, rien ne se passe comme c'était prévu. Donc déjà, le concept de trahison apparaît dans l'esprit arabe, dans le récit arabe, la trahison apparaît. C'est-à-dire, les Anglais nous ont trahis, les Occidentaux nous ont trahis, les Français nous ont trahis, tout le monde, on nous a trahis. Et ça continue, ça ne s'arrêtera plus, jamais. Il y aura donc tout ce qui se passe en Palestine entre les deux guerres. Ensuite, il y aura Nasser qui arrive au pouvoir en 52 ou en 54, ça dépend comment on le voit, qui décide de construire un grand barrage de soins pour développer son pays. Il a le droit de faire ça quand même, de développer son pays. Alors, il est tout de suite très mal vu. Il y a l'agression, la guerre de Suez en 1956. Les forces anglaises, françaises et israéliennes attaquent l'Égypte parce que Nasser a eu l'impudence de vouloir développer son pays. Alors, la guerre des six jours, la mort de Nasser. Il faut comprendre cela. C'est ce récit qui est aujourd'hui disponible, enfin. Ce contre-récit, qui n'est pas du tout le récit européen, qu'on voit sur Al Jazeera, sur Al Arabiya, sur les 200 chaînes satellitaires. Et je m'empresse de dire une chose qui doit être claire pour tout le monde. Il n'y a pas de vrai récit, il n'y a pas de faux récit. Il y a simplement des récits différents. Et ce récit d'Al Jazeera que moi je regarde tous les jours, presque par obligation professionnelle, il est tout à fait cohérent. Et Al Jazeera est une excellente chaîne qui dit des choses contraires à ce qui se dit sur Fox News, certainement, mais qui n'est pas plus mauvaise que Fox News. Alors, juste pour finir sur ce récit, lorsque Nasser, la guerre des six jours, quand les Arabes perdent finalement la guerre des six jours, ils sont pendant, entre 67 et 79, pendant 16 ans, les Arabes n'existent plus. Ils ne sont plus là. Et il y a ce miracle, alors, ils sont entrés dans une espèce de mélancolie, hein. Et puis il y a ce miracle, entre guillemets, de 79, février 79. L'ayatollah Khomeini vient de Neuf-le-Château pour prendre le pouvoir. Neuf-le-Château, je vous signale quand même que le Grand Marnier a été inventé à Neuf-le-Château. Ce qui fait que dans mon livre, il y a le chapitre 40 de mon livre s'appelle « Ayatollah et Grand Marnier ». C'est un mélange un peu bizarre, mais que c'est comme ça. Les Arabes qui s'étaient endormis dans une mélancolie de gens vaincus, écrasés, parce qu'on dit toujours Israël écrase les pays arabes, en 67, écrase les Arabes, écrase. Tout à coup, l'Arabe se réveille, musulman, n'est plus du tout arabe, ça marche plus, le panarabisme, le socialisme, Nasser, c'est des vieilles lunes. En tant que musulman, tout à coup, il devient pratiquement invincible. Pourquoi? Deux choses.
La prise d'otage des diplomates américains à Téhéran, elle dure 444 jours sans que l'Amérique puisse y faire quelque chose. Donc tout à coup, on a un sentiment de puissance. Et puis il y a un sentiment de puissance qui est morbide, qui est celui de « je gagne même si je meurs ». On a en face de soi une toute autre logique. Alors, les deux récits s'affrontent, et tant qu'on restera, et je vais finir vraiment là-dessus, tant qu'on restera sur cet affrontement des deux récits, qui est dangereux des deux côtés. Moi, j'ai vu sur Fox News, avant 2003, avant la guerre l'invasion américaine d'Irak, j'ai vu de mes yeux un général américain à qui le journaliste de Fox News lui disait « Mais vous avez en face de vous une armée très forte. » On croyait que l'armée irakienne était forte. « Comment êtes-vous sûr que vous allez gagner ?» Et lui, il lui dit « Je vais gagner because my God is stronger than their gods. » »« Mon Dieu est plus fort que leur Dieu. » Mais ça n'a aucun sens, c'est une bêtise absolue. Et ça signifie que des deux côtés, on n'a pas encore intériorisé la chose suivante, c'est qu'on ne peut sortir que par le haut de ces deux récits. C'est-à-dire qu'il faut accepter le récit de l'autre, il faut voir où c'est qu'on peut trouver des points d'attache, où c'est qu'on peut en sortir. Les accords d'Oslo dont tu parlais tout à l'heure étaient une tentative de sortir finalement de cet affrontement entre les récits. Il faut prendre conscience de ne plus croire que nous avons raison, que notre récit est le seul qui vaille, et en face... eux aussi doivent prendre conscience de ça. Et là, peut-être, on pourrait faire quelque chose.
Alors, en tirant le fil de l'histoire, en partant de la Première Guerre mondiale, et donc en traversant le siècle, en évoquant Nasser, la nationalisation du canal de Suez, la guerre de 1956, l'Ayatollah en 1979, on arrive assez rapidement à George Bush et à Saddam Hussein. Et c'est là où on arrive dans votre roman, Gilbert Sinoué. Vous proposez, d'une certaine manière, le deuxième récit dont vient de parler Fouad Laroui, celui qui est proposé du point de vue arabe à travers donc, les effets du 11 septembre sur un certain nombre de personnages que vous avez dispersés dans le monde arabe. Il y a le Caire, il y a Bagdad, il y a Gaza. Et la façon dont la déflagration de cet événement a eu des effets sur la vie quotidienne de vos personnages qui sont... des gens qui vivent un quotidien ordinaire dans le monde arabe. Comment, par quel effet, le 11 septembre a-t-il totalement bouleversé le monde arabe ?
Écoutez, moi, j'ai l'impression d'avoir mon jumeau à ma droite. C'est très embarrassant parce qu'un débat suscite normalement un affrontement. Et je ne vois pas comment je peux l'affronter. Peut-être que j'affronterai monsieur. On verra.
On va voir.
En tout cas, pour résumer ce qu'il a dit, c'est tout à fait ça. En fait, il y a eu des cocus à un moment donné dans l'histoire de ces deux mondes, ces fameux deux récits. À un moment donné, à partir de 1917, en gros, où M. Saïs et M. Picot tracent une ligne sur le sable, comme on dit, ils se partagent le gâteau, ils construisent des États, ils déconstruisent d'autres États, ils font de fausses promesses. Et on ne va pas revenir là-dessus, il y a eu un moment donné où les Arabes se sont sentis cocus. Il n'y a pas d'autre mot. La rancœur s'est installée, l'abîme a commencé à se creuser, et il n'a fait que se creuser au fil des siècles, des décennies, avec effectivement la création de l'État d'Israël qui a été vue comme une espèce de blasphème contre la dignité d'un peuple, qui était le peuple palestinien. Un jour, j'ai eu une discussion comme ça avec une dame israélienne qui m'en a beaucoup voulu parce que je défendais la cause palestinienne et je disais que ce pauvre peuple méritait quand même un lopin de terre, même si on ne lui accordera plus jamais d'État. Et elle m'a répondu, et là je rejoins ce qu'a dit Fouad à propos de « Mon Dieu est plus fort que ton Dieu ». Elle m'a dit « Mais vous n'avez pas compris, cette terre nous a été donnée par Dieu ». Et à partir de ce moment-là, on se trouve dans un débat qui n'est plus logique, et je lui ai répondu, je ne savais pas que Dieu était agent immobilier. Donc on casse le débat pour tomber dans l'humour, parce qu'on ne peut pas discuter de ça. Mais revenons donc, je ne vais pas faire le rapporter ce qu'a dit Fouad, c'est évident qu'ensuite la gaffe suprême, c'est l'ancien alcoolo, George Bush, qui devient tout à coup chef des croisés, qui emploie ce mot de croisade, et il ne réalise pas que dans la mémoire musulmane, c'est un bain de sang, il n'y a pas autre chose, de preux chevaliers qui partent pour libérer le Saint-Sépulcre dont on ne sait même pas où il se trouve, aujourd'hui encore. Donc Bon, il y a le mot croisade qui est vu comme, comme une gifle. Bon. Et ça, c'est vrai que l'Occident n'a pas conscience de... J'emploie un mot gaffe, je ne sais pas quel mot employer, accumuler. Et effectivement, la guerre d'Irak est vue encore comme quelque chose d'insensé. Parce qu'il faut discuter avec les Arabes, il faut parler avec des étudiants qui vous disent, mais vous avez... Alors, c'est vrai qu'on va encore une fois parler d'Israël, mais on n'y peut rien. C'est un problème qui existe et qui a des retentissements depuis 70 ans sur notre vie commune, en Europe, dans le monde, qui crée des djihadistes, puisqu'on va en parler, qui crée des fous de Dieu, qui emploie le problème israélien comme prétexte, alors qu'ils se foutent totalement d'Israël. Donc, vous avez en plus l'agression d'Israël, où tout à coup, vous avez des Arabes qui vous disent « Mais c'est bizarre toutes les résolutions de l'ONU ont été bafouées. Il n'y en a pas une seule qu'Israël a respectée. Pas une seule. Vous en prenez, il y en a, je ne sais pas, une quarantaine, qu'il faut revenir aux frontières de 67, qu'il ne faut pas coloniser, etc. S'en fout totalement. Et les Arabes vous disent, et dès qu'un pays arabe ne répond pas à une résolution, il est éradiqué de la carte. Alors, il y a une sensation de deux poids, deux mesures. Et l'Irak, c'est flagrant. On sait qu'il n'avait pas d'armes de destruction massive. On sait que le type n'était pas du tout impliqué dans l'histoire des World Trade Center. Et il se retrouve avec 350 000 morts, une génération entière de gens éradiqués qui n'avaient même plus de cahiers avant, ni d'encre, ni de plumes, etc. Bagdad n'existe plus. On fait exploser un pays en morceaux. On va là-bas en pensant qu'on va... C'est le western, quoi. Les cowboys qui vont aller détruire les Indiens, ils ne se rendent pas compte qu'il soulève un couvercle de la boîte de Pandore. Parce qu'aussi, c'est une vision fausse. On pense qu'il y a un islam. Mais il n'y a pas un islam comme il n'y a pas un Européen. Il y a une différence fondamentale entre un Italien et un Suédois, comme il y a une différence fondamentale, ne fût-ce que dans la langue, entre un Algérien, un Tunisien, un Marocain, qui ont leurs identités. Et l'islam n'est pas un. Il le sait aussi bien que moi. Il y a les chiites, les sunnites, les alaouites. Donc on rentre on tape dans une fourmilière. Et on ne réalise pas du tout qu'on est en train de déclencher quelque chose qui va... une machine infernale. Donc l'Irak, c'est encore, une fois de plus, une pierre d'achoppement sur les relations entre les deux mondes. Cela étant, je vais très vite conclure, parce que j'ai eu ces discussions avec des amis en Égypte il n'y a pas longtemps. Les Arabes non plus ne peuvent pas passer leur temps à dire « c'est la faute de l'Occident ». Parce que ça, c'est complètement injuste. Pardonnez-moi d'employer un mot vulgaire, les conneries qu'ont pu faire l'Occident, c'est une chose. Mais l'abrutissement, parce que je n'ai pas d'autre mot, des dirigeants arabes est quelque chose d'inqualifiable. Ça fait 50 ans que ces pays ont l'indépendance. Ils n'ont pas été foutus de créer des partis politiques, d'arriver à une forme de démocratie. Les peuples arabes se sont laissés massacrer par leurs dirigeants. Que ce soit Moubarak, que ce soit une époque Nasser, Kadhafi, Hafez al-Assad, tout ça, les peuples arabes n'ont pas su gérer leur indépendance. C'est ce que je leur reproche beaucoup. Je veux dire, tu ne peux pas dire une femme qui se fait battre par son mari tous les jours, qui ne finit pas un jour par se lever et réagir, on ne peut pas dire c'est la faute des voisins. Non, il faut que tu réagisses. Va à la police, bats-toi, quitte ton mari, je ne sais pas. Donc les Arabes ont une lourde part de responsabilité dans cette catastrophe qui est devenue le Moyen-Orient. Voilà, je passe la parole à monsieur.
À Étienne Barillet.
Je vais m'énerver.
Dans le... Non, non, gardez quelques réserves. Donc la parole à Étienne Barillet, dont le point de vue, votre point de vue est sensiblement différent, d'abord parce qu'il s'agit d'un essai, et que d'autre part, non pas que l'histoire soit absente de votre livre, mais ça n'est pas votre point d'entrée principal. Votre point d'entrée principal dans le sujet, c'est le crime de devoir, celui qui est nécessaire car exigé par Dieu. Et vous dites qu'après le crime de passion, qui est donc le crime individuel, et le crime de logique, qui est le crime collectif, nous sommes en train d'assister à un retour du crime de devoir, donc celui qui est sacré. Et votre thèse dans le livre, alors il y a plusieurs éclairages, mais il y en a un quand même qui est prédominant, ce serait que les chrétiens qui ont autrefois pratiqué ce crime de devoir s'en sont dépris, qu'ils ne le pratiquent plus désormais, alors que l'islam pratique ce sacré, qui est donc un sacré de la force, hein, d'où l'intitulé de votre essai. C'est ça la ligne conductrice ? si je la résume à peu près correctement.
Oui, enfin, je n'identifie pas, je le dis immédiatement pour qu'on soit clair, la religion musulmane à l'usage de la force. Hein. Je dis seulement que le texte fondateur et les actes du prophète ont une relation avec la force qui est plus, si j'ose dire, naturelle que celle de Jésus. Et là, le disant, je ne suis pas le premier ni le seul, les écrivains et des penseurs musulmans le disent volontiers. Je pense à ce très beau livre de votre compatriote Naguib Mahfouz qui s'appelle « Les fils de la Médina » qui raconte en quelque sorte de manière symbolique ou allégorique l'évolution de l'humanité et l'apparition successive de différents prophètes qui essayent de transformer cette humanité sous la forme en fait de personnages qui essayent de transformer la vie de leur quartier. Et tous parlent au nom d'un certain Gabalaoui qui est un père fondateur, qui est Dieu en réalité, mais qu'on ne voit jamais. Et il y a un certain Rifa qui ne veut utiliser que la douceur, c'est Jésus, et lui succède un certain Kassim qui dit « Nous avons besoin de la force pour établir la justice. » Ce n'est pas la force méchante, mais on a besoin de la force. Et Rifa s'est trompé parce qu'il n'a pas voulu utiliser la force. Alors, je pense que ce débat fondamental, non pas entre la chrétienté et l'islam, parce que la violence est bien partagée, mais entre Jésus et Mahomet, disons, ce débat existe. Maintenant, je me suis senti un peu mal à l'aise et un peu piégé par tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Je me sens, disons, j'entends beaucoup parler de faits historiques, d'histoires récentes. J'entends des choses que, pardonnez-moi, qu'on entend beaucoup dans les médias, y compris occidentaux, sur la responsabilité de l'Occident, tatati, tatata. Vous avez vous-même dit, heureusement, ça m'a un peu soulagé, qu'il ne fallait pas non plus toujours que ce soit la faute des autres, que une pensée du seul ressentiment et l'explication de tous les actes violents actuels par le ressentiment causé par les fautes occidentales, c'est un peu facile. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il n'y a pas si longtemps, il y a une génération, le terrorisme palestinien, par exemple, ne se réclamait absolument pas de l'islam, il se réclamait du marxisme-léninisme. Hein. Et personne n'était en train de dire que ce marxisme-léninisme n'avait aucun rôle dans leur engagement. Ils s'engageaient à cause de ça. Alors de même, aujourd'hui, toujours en précisant bien que les terroristes musulmans ne seront pas représentatifs de l'islam, bien heureusement, mais ils se réclament de l'islam. Et comme disait Salman Rushdie, il y a, ça a quelque chose à voir avec l'islam. Ils ne se réclament pas de l'islam par hasard, par commodité, parce que ça les arrange maintenant d'employer ce langage. C'est leur croyance. Alors c'est quand même de ça qu'il faut partir. Et ce qui m'intéresse dans ce que j'essaye de penser dans mon essai, c'est quel est le rapport entre cet usage de la violence et une ou plusieurs religions. Et c'est là alors qu'on en arrive à ce que vous disiez par rapport au crime de devoir sacré. C'est-à-dire qu'il y a eu dans le christianisme, tout autant et plus peut-être que dans l'islam, des crimes qui étaient faits, disait-on, pour venger l'honneur de Dieu. Et il y a eu un moment où dans la chrétienté, on a commencé à dire mais c'est pas possible, mais Dieu... Est-ce que Dieu peut vouloir le crime ? Enfin, c'était la question qu'on posait de plus en plus, qui se pose bien entendu en islam aujourd'hui aussi, chez beaucoup de penseurs musulmans éclairés. Mais tant qu'on ne se pose pas cette question, eh bien, le crime de devoir sacré est possible. Alors, j'ajoute encore une dernière chose, c'est que ce que j'essaye de montrer, c'est que la violence terroriste est en deçà de toute religion. C'est l'usage de cette force terrifiante que l'homme sent en lui qui le rend capable de déshumaniser les autres humains. Et cette ivresse de cette force qui déshumanise, ivresse qui se manifeste dans les guerres aussi, comme Roger Caillol a si bien montré, eh bien, elle saisit les terroristes. Et cette ivresse, elle, aucune religion n'en est responsable. Mais ensuite, évidemment, on greffe les religions là-dessus.
Voilà. Alors, Fouad Laroui voulait réagir à quelque chose.
Et... Oui, c'est une thèse extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, les derniers mots de M. Barrier, je pense qu'on pourrait tous les prendre à notre compte. Vous dites que les religions se greffent là-dessus. Il se trouve que cette semaine, dans une revue qui s'appelle La Revue, c'est aussi stupide que ça, j'ai un texte, ici, j'ai écrit un texte sur deux pages qui s'appelle « Terroriste et protestant ». Parce que j'habite aux Pays-Bas depuis maintenant 22 ans, et la première vague de terrorisme aux Pays-Bas, c'était en 1975, c'est ce que je raconte, c'était des terroristes qui, entre deux assassinats, priaient au nom de Jésus, car c'était des protestants des Moluques, hein, des îles Moluques, qui réclamaient l'indépendance des Moluques par rapport à l'Indonésie, et ils habitaient aux Pays-Bas, et ils tenaient le gouvernement hollandais responsable de leur situation. Donc ils ont détourné un train, si je puis dire, parce que détourner un train, ça me semble difficile, mais bon, ils ont détourné un train, ils ont commencé tout de suite par assassiner des gens, dont je donne le nom, et tous les soirs, ils priaient parce qu'ils étaient profondément croyants, chrétiens, protestants. Quand on parle effectivement de Mahomet, et c'est pour ça qu'il faut s'arrêter assez vite et revenir au cœur de l'affaire. Ce que vous dites, quand vous dites, c'est en deçà de la religion. Je pense que c'est ça le problème. Parce que après, les exemples abondent. Alors, par exemple, pour ce qui est de Mahomet, le prophète Mahomet, alors, quand il était à Médine, il y avait trois tribus juives avec lesquelles, au début, il s'entendait plutôt bien. Et puis, ensuite, il y a eu une bisbille entre lui et les tribus juives. Et il y a eu un massacre, un vrai massacre, où il a fait décapiter tous les mâles de l'une des tribus juives, les Khuzairat. 800 personnes décapitées l'une après l'autre. Alors, j'ai regardé la biographie du prophète Mahomet par Tariq Ramadan. Il ne parle pas de ça. Donc, il n'y a jamais eu ça. Donc, bon, c'est très bien. Mais j'ai lu une biographie de Charlemagne, dans laquelle Charlemagne, à un certain moment, puisqu'il était en guerre, lui, le roi des Francs contre les Saxons, il a 4500 otages saxons. Et à un certain moment, il n'arrive pas à s'entendre avec les Saxons. Et pendant un jour, il fait décapiter 4500 jeunes Saxons au nom de Dieu, puisque lui, ce qu'il reprochait aux Saxons, c'est qu'il ne voulait pas accepter le Christ. Donc, on peut... Et puis, je pourrais parler de Baruch Goldstein, New-Yorkais, colon juif, qui débarque à Hébron avec une mitraillette et qui assassine dans le dos 29 Palestiniens qui étaient en train de prier dans la mosquée d'Hébron. Au nom de qui? Au nom d'Adonai, je suppose. Attendez. Donc, on peut... Ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut multiplier les exemples. En réalité... Vous avez raison, il faut rester en deçà des religions, sinon on n'y comprend plus rien. C'est pour ça que quand je parlais d'histoire du XXe siècle, c'est pour essayer, dans un cas, pas dans tous les cas, dans un cas de comprendre le ressentiment dont parlait Gilbert Sinoué, le ressentiment sunnite, au départ c'était des laïcs, les gens les Saddam Hussein, des gens comme ça, qui par la suite s'est saisi de la religion pour commettre les attentats, au nom de Dieu. Et je finis sur un détail. Il y a un ouvrier qui se dispute avec son patron dans un village français. Il finit par assassiner son patron, ce qui n'aurait fait qu'un entrefilet dans le journal régional si l'idiot n'avait pas eu le réflexe de crier « Allahu Akbar » au moment où il tue son patron parce qu'il est en bisbille avec son patron. Tout à coup, c'est le terrorisme, etc.
Oui, écoutez, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comparer Mahomet, à Charlemagne et encore moins à Baruch Goldstein. J'entends, Mahomet est fondateur de religion, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus significatif. Alors que la chrétienté est mésusée du christianisme de la façon la plus horrible, c'est évident, mais elle en a mésusé, elle n'en a pas usé en l'occurrence, lorsqu'elle a justifié le terrorisme. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que il faut qu'il y ait un moment dans la réflexion sur le texte sacré où on puisse juger tout verset au nom, je dirais, d'une exigence humaniste. C'est ce que demandent des penseurs musulmans comme que son nom m'échappe maintenant, qui a écrit
Lettre
ouverte aux musulmans.
Mais je pense que beaucoup pensent comme cela.
Oui, mais pour cela, il faut justement avoir un rapport au texte qui soit tel que le texte ne soit pas intouchable. Et le moment où où en chrétienté, quelqu'un comme Pierre Bayle, que là encore des musulmans invoquent, j'en suis très heureux, dit « tout sens littéral qui demande de faire des crimes est faux ». Ça veut dire qu'il juge le texte au nom d'une exigence qui est l'humain et la souffrance qu'on ne veut pas infliger à l'humain. Juger le texte au nom de l'humain, c'est ça que j'attends, si j'ose dire, de l'islam.
Je signe des quatre mains, si j'ose dire.
Ah, mais très bien.
Je signe des quatre mains et je vais vous dire pourquoi. Et là, je vais vous dire pourquoi. Alors, vous me citez Pierre Bayle, ça me fait plaisir parce qu'il a vécu à Rotterdam pendant très longtemps. Et je vais vous citer Mohamed Mahmoud Taha, ingénieur.
Soudanais. Oui, j'en parle beaucoup dans mon essai. Alors là, on pourrait en parler. Mais allez-y.
Mais Mahmoud Taha, pieux musulman soudanais.
Exécuté.
Mais. Son discours, qui est un discours qui n'est pas rare, en fait, consistait à dire, et après je vais revenir à la Bible d'ailleurs, consistait à dire, il y a dans le Coran deux parties, les sourates mécoises qui sont d'inspiration personnelle, mystique, retour au monothéisme, etc., etc., et puis les sourates médinoises, qui consistent à organiser la cité, donc le début de la politique. Et Mohamed Taha dit, mais attendez, organiser une cité, c'est totalement caduque. Entre-temps, on s'est organisé même des États, il y a eu Montesquieu, il y a eu tous ces gens-là. Donc on laisse tomber toutes les sourates médinoises et on reste à l'inspiration du texte. Je souscris, beaucoup de gens souscrivent à ça. Mais je vous ferai remarquer que c'est l'équivalent de ce qu'ont fait beaucoup de chrétiens quand ils n'appliquent plus le Lévitique. Parce que pendant très longtemps, quand je donnais des conférences dans des villages protestants, Hollandais. Donc ils me voyaient arriver, déjà ils étaient un peu inquiets, qu'est-ce que c'est que ce Marocain ? Et j'arrivais avec le Lévitique en néerlandais. Et quand ils commençaient à me parler de la violence du Coran, mais monsieur, le Coran, la violence, etc., j'ai dit d'accord, on va faire une petite lecture. J'ouvrais le Lévitique, qui n'a jamais été abrogé, pour autant que je sache, et je lisais le Lévitique où il y a, je crois, 250 fois le mot « lapidation », alors qu'on le chercherait en vain dans le Coran. Ce que je disais, et je crois que vous en serez d'accord avec moi, c'est que les chrétiens aujourd'hui ont l'intelligence de ne pas appliquer le Lévitique, et d'ailleurs, effectivement, la Nouvelle Alliance consistait justement à se débarrasser de cela. Cela dit, quand je suis dans ma chambre d'hôtel et j'ouvre la Bible que les Gédéons ont l'amabilité de mettre à notre disposition dans toutes les chambres d'hôtel, le Lévitique est encore imprimé dans lequel tu seras lapidé si tu fais ceci, tu seras lapidé si tu fais cela, si tu manges ceci, si tu manges cela, etc. C'est d'une violence inouïe, le Lévitique. Et donc, au lieu de dire simplement aux musulmans « votre texte est violent et votre prophète est violent », il vaut mieux leur dire « nous en sommes tous passés par là ». Toutes ces religions, toutes ces idioties, tout c'est une, tu vas être lapidé, il ne faut pas manger des huîtres, il ne faut pas faire ceci. On en est tous passés par là, nous avons tous été idiots. Revenons tous intelligents en même temps, et pas vous êtes des idiots, nous sommes les intelligents, et il faut... Non, nous avons tous été, comme disait Yves Montand dans un autre contexte, nous avons tous été cons et dangereux. Cessons de l'être.
Alors j'aimerais, Étienne Barillet,
je voudrais quand même mettre une réserve. Tu as tout à fait raison. Effectivement, la logique serait de dire à 1 milliard 200 millions de musulmans, nous avons été cons, arrêtez de l'être comme nous. C'est évident. On fait publier un article et on le balance sur 1 milliard 200 000 exemplaires. Le problème que soulevait monsieur et que tu connais par cœur, c'est que la discussion se fonde aujourd'hui sur des types que la majorité des musulmans ne reconnaissent évidemment pas, qui se sont accaparés des versets les plus violents, ceux de Médine, de l'islam, et qui portent comme étendard Allah. Voilà. Ils tuent au nom d'Allah et ils se fondent sur de véritables versets dont personne ne peut nier la violence. On les connaît. Ils sont terrifiants par moments. Ils sont d'ailleurs contradictoires, parce que tu as un verset qui te dit « Qui donc peut renier la religion d'Abraham, sinon le fou ?» Et tu as d'autres versets « Ne soyez pas amis des chrétiens et musulmans, ils sont amis ensemble contre vous. » Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Le drame du monde musulman, de l'islam, disons, il faut employer le mot comme il est, c'est que on a affaire d'abord à des prédicateurs qui sont d'une nullité apocalyptique. Et que tu ne peux pas... Le problème, c'est le problème du Coran. Est-il créé ou est-il incréé ? S'il est créé, je peux en discuter. Et c'est ça, à ça qu'il faut arriver, comme à une époque, les Mu'tazalites, qui disaient, attendez, on peut discuter des versets. On peut en discuter, d'autant qu'on ne sait pas à quel moment il les a prononcés, à quel jour, à quelle heure. On les a rangés par ordre chronologique de longueur. Donc acceptons de discuter des versets. Acceptons l'idée qu'ils sont circonstanciels, comme ceux prononcés sur le voile, sur le vin, etc. Le problème de l'islam aujourd'hui, c'est qu'il ne veut pas faire ce que le christianisme a pu faire et que ne veulent pas faire les juifs ultra-orthodoxes. C'est la Torah, c'est une terre accordée par Dieu, ne discutez pas avec moi. Et le problème de l'islam est exactement le même. C'est qu'on n'arrive pas à dire à des musulmans, écoutez, asseyons-nous. Alors ce verset-là, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Il l'a dit à un moment donné, il y a 14 siècles. Vous n'allez pas nous refaire le coup de l'État islamique 14 siècles plus tard. Je prends vite un exemple et j'abrège. Tu le sais mieux que moi, le fameux verset, le premier verset sur le voile, qui n'est d'ailleurs pas un voile intégral, précisons-le. D'après les hadiths, les femmes sortaient la nuit faire leurs besoins. Elles étaient harcelées par les types qui les draguaient à l'extérieur. Elles sont venues voir le prophète. Il n'y avait pas de voile jusqu'à Médine. Aïcha n'était pas voilée. Jusqu'à Médine, il n'y a pas de voile. On n'en parle pas du tout. Elles sortent, elles vont voir le prophète. Il lui dit, chaque fois qu'on sort le soir, il y a des mecs qui se jettent sur nous. Et comme les femmes de l'époque n'étaient pas, quoi qu'on en dise, sapées comme des religieuses, on voyait bien les chancrures de leurs seins, il leur dit, habillez-vous décemment. Couvrez votre poitrine. C'est ça le verset. C'est couvrez votre poitrine. Bon, mais c'est un verset circonstanciel. Acceptez qu'il a été dit à une époque où il n'y avait pas de toilettes. Aujourd'hui, vous avez des salles de bain, des toilettes. Vous n'êtes plus obligé de sortir la nuit pour aller faire pipi dans la rue. Le problème de l'islam, c'est ça. C'est que vous avez 99% des musulmans qui pensent que c'est un texte immuable. Et vous avez une bande d'abrutis qui vous disent « c'est ça le texte, je ne vais pas en discuter ». Je crois que c'est ça le problème, c'est que l'islam doit accepter de discuter du Coran.
Ce qu'est en train de dire Gilbert Sinoué, Étienne Barillé, rejoint quelque chose que vous affirmez dans votre texte, à savoir que le christianisme est une religion de la sortie du religieux, donc une religion évolutive, tandis que l'islam serait figé, puisque dans l'islam la notion de temps est absente, et que donc le problème de l'islam, ce serait la question du rapport au temps qui empêcherait précisément l'évolution. Et là, j'aimerais avoir votre avis à tous les trois là-dessus.
Exactement. Oui, il me semble que c'est encore beaucoup plus profond que la question de la littéralité. Si on, je ne sais pas si mon...
Non,
non,
on n'entend plus, là. Non, on n'entend plus.
Je vous ai saboté.
Ouais, j'ai l'impression que c'est une cabale.
Il faut donner de la voix. Donner de la voix.
C'est qu'en effet, on a l'impression, en lisant certains penseurs musulmans, mais beaucoup d'entre eux, y compris Taha, dans son livre que j'ai lu traduit en français et longuement commenté dans mon essai, que l'islam existait depuis toujours d'une certaine manière, qu'en tant que religion, elle existait avec le premier homme, dit Taha, que la langue arabe est la plus parfaite de toutes, qu'il y a donc là, même chez lui, une idée d'immutabilité et l'idée que tout est contenu aussi dans l'islam. Donc on va retrouver la science moderne dans le Coran, etc., etc. Et c'est cela qui fait qu'on ne peut pas avancer, ou ce mot même d'avancer est récusé, si vous voulez, par le croyant musulman. La majorité, je le crains bien, et les autorités musulmanes et coraniques aussi. Au fond, la question, c'est celle-ci, c'est au nom de quoi est-ce qu'on va discuter un texte ? Vous vous dites, on va se mettre à une table, il n'arrive pas à se mettre à une table, mais on va se mettre à une table pour dire ceci est lié à une époque. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Pourquoi est-ce qu'on dit c'est lié à une époque ? Parce qu'on trouve que l'être humain tel qu'il a évolué aujourd'hui ne mérite plus qu'on lui donne, par exemple, ces interdictions-là, ne mérite plus cette violence-là. Ça veut donc dire que notre idée de l'humain a évolué. Et que c'est au nom de cette idée de l'humain, j'y reviens, bon, j'ai un discours laïque, si vous voulez, dans ce sens-là, mais qu'on peut éventuellement avoir le levier qui permet de discuter les textes religieux. Et si on n'a pas ça, mais évidemment, c'est un bouleversement, c'est une révolution absolue de dire que c'est l'humain qui est central, parce que les religions disent que c'est le divin quand même, eh bien, il faut qu'une religion indexe le divin sur l'humain, si j'ose dire. Que l'homme fasse Dieu à son image, mais dans le sens le plus positif, le plus beau du terme, à l'image d'un homme qui essaye de moins faire souffrir son prochain, et ainsi de suite, et un homme qui essaye de n'être pas despote à l'égard de son prochain, etc. Voilà ce que je voulais
dire. Foi de la Rouille, puis après Gilles Bercy.
Je vais offrir mon livre sur l'islamisme, ou plutôt contre l'islamisme, à M. Barrier, parce que j'ai fait dans mon livre contre l'islamisme exactement ce que M. Barrier souhaite qu'on fasse.
Mais je suis heureux.
Je vous l'offre tout à l'heure. Vous venez heureux. Sur mon stand, vous serez le premier. Non, parce que, par exemple, quand vous dites que Taha dit que toute la science, on l'entend aussi, même des convertis comme Maurice Bucaille, dans son livre qui dit « Oui, mais toute la science est dans le Coran, etc. » Le premier chapitre de mon bouquin contre l'islamisme, où je demande que c'est une bêtise absolue, et je démontre tout cela. Encore une fois, on marche sur la tête. Pourquoi ? Parce qu'on fait l'hypothèse que c'est l'islam qui motive tout cela. Or, vous l'avez dit vous-même, la dernière phrase de la première partie de votre intervention, vous avez dit « on greffe quelque chose ». S'il s'agit, par exemple, de parler en tant qu'intellectuel éclairé, de se mettre autour de la table, de comparer nos textes, de regarder ceci, de regarder cela, aucun problème. Bien sûr, on va finir par s'entendre. Quand vous dites « il faut humaniser », mais vous savez, Voltaire et Goethe aussi ont écrit Hegel aussi ont écrit des choses extrêmement élogieuses sur l'islam, parce qu'ils disaient voilà, on fait une religion humaine, vu qu'il n'y a pas de miracle dedans. Il n'y a aucun miracle. Bien.
Sauf donc, dans la Syrah.
Oui, bien sûr. Après, on reconstruit en disant ouais, les miracles, ceci, le cheval, le truc. Mais en réalité, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de. Bon, bref. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas de prendre des gens intelligents, de bonne compagnie, autour d'un bon verre de thé ou du délicieux vin blanc que vous faites ici dans la région, qui est vraiment très bon, je le recommande aux gens qui ne le connaissent pas. La question n'est pas là. La question est de prendre trois catégories de jeunes et de voir pourquoi ils deviennent djihadistes. Alors, prenons d'abord des Bretons de souche bretonne, blonds aux yeux bleus, je ne sais pas si c'est des Bretons, mais peu importe, qui tout à coup se convertissent soi-disant à l'islam, alors qu'ils ne comprennent rien, et qui vont décapiter des gens en Irak. Est-ce que ce n'est pas plutôt la psychopathologie ? Est-ce que ce n'est pas plutôt la médecine mentale qui est... Ce n'est plus une discussion sur le Christ ou sur Mohamed, c'est de la psychopathologie en ce qui concerne les convertis. Deuxièmement, en ce qui concerne les sunnites d'Irak, qui recréent leur État, parce que comme l'a bien expliqué Gilbert Sinoué en 2003, George Bush entre... détruit tout sur son passage et il nomme Paul Bremer vice-consul de l'Irak. Le gars ne connaissait rien à la question. Il licencie tous les fonctionnaires sunnites et toute l'armée sunnite, plus ou moins. Ces gens-là, ce n'est pas le Coran qui les motive. C'est un ressentiment presque naturel. Le gars, un jour, il est colonel de l'armée avec tous les avantages que ça veut dire. Trois jours après, il est au chômage. Se crée une organisation qui veut venger les sunnites, elle s'appelle État islamique, il s'en fiche bien, il va se battre avec Sajjad. Deuxième catégorie de gens. Et tout cela dans le jeu stratégique entre l'Iran chiite et tous les sunnites. On voit aussi au Yémen, c'est la même chose, c'est l'Iran contre l'Arabie saoudite, les chiites contre les sunnites. Toutes ces histoires-là, après, ces gens-là vont prendre le Coran qu'ils ne connaissent même pas. Vous savez que, ça m'a fait rire parce que je le note dans mon bouquin, c'est que à l'aéroport de Heathrow, la police anglaise arrête trois Pakistanais anglais qui vont se battre avec l'État islamique. Et qu'est-ce qu'ils ont dans leur bagage ? L'islam pour les nuls. Dans leur bagage ! Pour dire que ces gens-là ne sont pas à discuter de la nature divine ou humaine du Christ ou de quoi que ce soit. C'est pas ça. Ils ont d'autres raisons. Ils se sentent très mal intégrés en Europe. Ils font une crise de l'adolescence. Dans les années 60, ils auraient eu, 70, ils auraient eu comme moi la photo de Che Guevara dans leur chambre d'étudiants où ils seraient allés chez Action Directe. Et puis maintenant, c'est l'islam et ça fait peur aux parents, tu comprends. Alors ils veulent embêter leurs parents. Ils vont soi-disant se convertir à une religion qu'ils ne connaissent pas. Cette discussion que vous menez est très intéressante, mais excusez-moi, M. Barrier, c'est une discussion d'intellectuel humaniste. Et je voudrais bien avoir cette discussion avec vous pendant des jours et des jours et des jours. Mais la question n'est
bien,
pas là.
Je voudrais bien de mon côté qu'on ne noie pas le poisson malgré tout. Parce qu'on a toutes sortes de causes qui ne sont pas l'islam dans votre discours. Toutes sortes de causes qui ne sont pas l'islam. Alors que tout de même, il ne faudrait pas oublier que l'islam est au centre de toute cette affaire. Que c'était autre chose il y a 20 ou 30 ans, c'est possible. Mais enfin, c'est cela aujourd'hui. Ce qui m'intéresse...
Non.
Mais si.
Non, si vous prenez...
Mais vous ne pouvez pas dire que c'est un pur discours et qu'ils auraient pris n'importe quel autre discours. Bah, c'est les déposséder, eux, de leur propre libre arbitre.
Alors, je vous pose une question très précise. Parlez-moi du breton qui s'appelle Jean-Michel et qui un jour, tout à coup... Non, mais je voudrais comprendre l'analyse de M. Barrier, ça m'intéresse.
Mais vous trouverez toujours un breton qui s'appelle Jean-Michel qui se convertit, mais ça ne sera pas la preuve que le problème n'est pas dans l'islam. C'est quand même un peu non, court.
Non, parlons-en systématiquement. C'est-à-dire, faisons une typologie. Vous savez que Olivier Roy a parlé...
Oui, mais dans votre typologie, il n'y a pas la place pour quelqu'un qui se livrerait au terrorisme au nom vraiment de l'islam.
Si,
c'est
pardon.
Toujours au nom d'autre chose.
Je me suis mal exprimé.
Alors oui.
Non, je me suis mal exprimé. Dans ma typologie, il y a quatre types.
Oui. Il y a quatre types. Alors vous avez oublié le quatrième.
Non, mais le quatrième, c'est parce que vous en avez tellement parlé que je me dis, on en a assez parlé.
Très bien.
Il y a quatre types. Il y a quatre types. Il y a le converti qui est à la limite de la psychopathologie. Il y a le sunnite qui était laïque du temps de Saddam Hussein et qui veut retrouver ses prérogatives et qui estime que la destruction de l'Irak en 2003 par George Bush lui a fait du tort. Et il y a troisièmement...
C'est pas la faute de George Bush tout le temps. Ça plaît trop à tout le monde de dire ça.
Je parle de quatre, monsieur Barrier. Il y a quatre, une typologie de quatre types. Je vous parle d'un type, pas des quatre. Je vous parle d'un des quatre des types.
Oui.
Et ça existe. J'en ai rencontré, dirait l'autre. Ça existe des types qui disent « je me bats avec l'État islamique, pas au nom de l'islam, du prophète, je m'en fiche pas mal, mais c'est parce que je suis sunnite ». Et George Bush en 2003 et Paul Bremer ont donné l'Irak sur un plateau d'argent aux chiites, au nom de la démocratie, parce que les chiites forment 60% de la population. Et on peut être d'accord d'ailleurs avec ce qu'ils ont fait. Mais c'est une typologie. Troisième typologie, le jeune... quand il y a eu les émeutes en France sous François Mitterrand et qu'on a créé SOS Racisme, des choses comme ça, ce n'est pas allé jusqu'au bout. Donc il y a aussi des jeunes, aussi bien dans les banlieues françaises qu'à Bradford en Angleterre, qui se sentent tellement mal dans leur peau, rejetés. Ça aussi, c'est une typologie. Et il y a, vous avez raison, il y a le fou.
Peut-être, sur cette question quand même de la destruction de l'Irak par George Bush et l'administration américaine, j'aimerais quand même qu'on entende Gilbert Sinoué, parce que c'est l'objet pratiquement principal de votre roman.
Je ne veux rien vous dire de nouveau. Tout le monde sait ce qui s'est passé, mais là, ce qui m'intéresse dans leur débat... J'ai l'impression d'être un peu pris entre le marteau et l'enclume.
Désolé.
Non, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que finalement, la complexité de ce débat fait qu'il faudrait démonter les pièces du puzzle. Si on a fait une vue d'ensemble, on ne s'en sortira jamais. Si d'un côté on dit, c'est l'islam qui est derrière tout ce mouvement et qui attire les gens, désespérés ou pas, comme un aimant, mais c'est l'islam, c'est pas le soleil ni la lune, c'est l'islam. Le type désespéré, il prend pas une croix et il va tuer un musulman. Il prend dans sa tête de débile une idée à la mode. C'est une idée à la mode. Alors, l'idée à la mode aujourd'hui, c'est quoi ? À ton époque, c'était Che Guevara. Aujourd'hui, c'est « je vais aller flinguer des mecs parce que je défends le prophète ». Il ne sait même pas où le prophète est né, mais peu importe. Donc il y a déjà effectivement un problème. Il ne faut pas prendre la vue d'ensemble. On ne peut pas dire « c'est l'islam ». C'est l'islam et ce n'est pas l'islam.
Oui, mais vous faites bien peu de cadre même de l'esprit des gens qui s'engagent. Ils s'engagent parce que c'est à la mode. C'est quand même pas très gentil pour
mais
eux.
Ils s'engagent parce que c'est à la mode.
Ah, non,
écoutez,
je
vais vous citer deux exemples.
Moi, je vous dirai autre chose après.
D'accord. Je vais vous citer deux exemples. J'étais en Égypte il y a 2 mois. Je suis né dans un pays où la mode n'était pas au voile. Du tout. Où les femmes égyptiennes, musulmanes, étaient habillées comme ces dames ce soir. Je n'ai jamais vu de burkini, j'ai jamais vu l'ombre d'un foulard de 47 au moment où je suis parti à 65. Donc, il s'est produit quelque chose quand je suis retourné 20 ans plus tard, je n'ai plus reconnu l'Égypte. Et je n'ai plus reconnu les Égyptiennes. Et donc là, il y a un phénomène très précis. On n'est pas à Médine, on n'est pas au Koweït, où là, d'emblée, elles étaient voilées. Il s'est donc produit un phénomène.
Oui, phénomène de fond, une vague de fond, mais pas tout une à mode. Fait. Pas une mode. Mode, alors le communisme était une mode. Il y a eu l'URSS et les pays satellites par mode. On devrait dire la même chose pour ça.
Je vais vous dire pourquoi j'emploie le mot mode, qui n'est peut-être pas le bon mot. D'accord. Il y a dans l'esprit de certaines jeunes femmes, en ce moment, vous allez me dire encore, je vais taper casser du sucre sur l'Occident, il y a aujourd'hui plus que jamais, chez certaines jeunes musulmanes qui n'auraient jamais imaginé mettre le voile, une espèce d'esprit revanchard, surtout en France, après la connerie, pardonnez-moi, du burkini. Ah bon ? Eh bien maintenant, demain, je vais mettre le burkini. Ah bon ? Eh bien maintenant, je vais mettre le foulard et je vais les emmerder. Il y a maintenant ce phénomène que moi j'emploie de mode, mais qui est une espèce de besoin, de revendication. Oui. Plus on les insulte,
c'est
plus
vrai, on les accuse. Mais on n'a pas interdit le burkini avant qu'il y en ait un. Mais hein, c'est donc pas parce qu'on l'a interdit qu'elles se disent ah bon, on va le mettre.
C'est pas parce qu'il y a deux burkinis qui traînent sur les plages de France.
Eh ben si.
Mais non, mais c'est absurde. C'est absurde de montrer du doigt. Bah, à ce moment-là, je vais tenir le même langage que certaines femmes musulmanes qui me disent mais vous voulez qu'on ressemble à vous? Vous voulez qu'on marche avec les mini-jupes et qu'on vous voit la culotte? Vous voulez la gay pride dans les rues du Caire avec des travestis qui s'embrassent sur la bouche? Ben, pour eux, c'est aussi choquant.
Donc, alors, c'est devenu choquant par mode, si je comprends
ma
bien.
Ma femme était en Égypte avec moi à la piscine. Elle était en bikini. J'étais entouré de burkini. Personne n'est venu lui dire « habillez-vous ». Personne ne lui a dit « madame, c'est interdit ». Ben, écoute, elle était en bikini. Oui. Quelqu'un aurait pu venir lui dire, mais allez vous rhabiller. Personne ne lui a dit allez se rhabiller.
Le problème est juste que le burkini a une autre signification que le bikini. Mais ça, on en parlera une autre fois. Comment tout le monde a l'air de protester.
Ah ben oui, mais laquelle? Expliquez-nous.
Ah, je dois.
Là, on aimerait bien savoir laquelle. Oui, oui.
Est-ce que je dois vraiment expliquer que le burkini? Ah oui,
s'il vous plaît. Oui, expliquez. Moi aussi, je voudrais avoir l'explication.
Alors, laissez-moi. Alors, je dois donc expliquer devant la noble assemblée que le burkini est une façon d'abaisser la femme. Je dois l'expliquer vraiment. Si je dois l'expliquer, j'ai très peur, hein. Je suis très inquiet. Alors, je crois que...
Le désir est de mettre les points sur les i.
Ce qu'il y a là derrière, c'est l'idée que la femme, en effet, exposée, est objet de désir du mal, et que si le mal la viole, ce sera la faute de la femme, bien entendu. Et par conséquent, pour éviter ça, eh bien, la femme doit se voiler le plus possible, se cacher le plus possible. C'est d'abord le voile, c'est ensuite le niqab, ensuite c'est la burqa. Puis alors, le burkini est évidemment aussi une provocation, parce que sans doute qu'une femme qui sincèrement voudrait se cacher, elle resterait dans sa maison, mais n'irait pas, évidemment, au bord de la mer en s'habillant comme un plongeur sous-marin. Donc, à la fois provocation et vêtement qui est vraiment un costume de la répression de la femme par l'homme, je ne comprends pas que j'ai dû expliquer cela. Alors maintenant, c'est fait.
Vous dites une chose dans votre essai, Étienne Barillet, sur cette question-là, hein, que l'islam a permis aux hommes de trouver en Dieu le garant de leur supériorité sur les femmes. Et là, j'aimerais qu'on discute ça.
Juste un mot, c'est que je me fonde beaucoup sur un texte d'un musulman, un texte tout à fait remarquable qui date de plus de 100 ans, malheureusement, parce qu'on a certainement régressé depuis. Mansour Fahmy, qui est un Égyptien, justement, qui a écrit sur le statut de la femme dans l'islam et qui se permet des choses que sans doute un auteur musulman aujourd'hui aurait bien de la peine à se permettre, parce qu'il met en cause le comportement de Mahomet lui-même, justement, le machisme, disons, de Mahomet, qui, dit-il, trouve toujours la bonne révélation au moment où ça peut justifier qu'il reprenne femme, par exemple.
Mais je vous signale que cette phrase se trouve exactement dans le livre que j'ai écrit, qui est en vente là-bas au stand et que je vous offrirai tout à l'heure.
Mais je vous en remercie, comme ça on est deux au moins, et puis trois avec famille. Non, c'est très bien. Mais tout ça pour dire que, alors, de nouveau, je ne dis pas du tout que ce soit que dans l'islam. Hein. Je dis que dans un certain nombre de grandes religions, y compris le christianisme, eh bien, l'exercice de la force, et là je reviens au sens premier que j'ai utilisé, qui est le sens utilisé par Simone Weil, qui est vraiment la puissance de dégrader autrui quand on a la force physique. Quand on dispose d'une supériorité matérielle sur autrui, on a cette tentation vertigineuse de le déshumaniser. Et c'est ça la force, comme dans son langage, et c'est ce mot que j'ai repris. Et alors, l'exemple le plus flagrant et le plus universel de cet usage de la force physique, c'est bien celle du mâle humain contre la femme, pour la tenir à merci, si je puis dire. Et alors là-dessus, se sont greffés, bien sûr, greffés, oui, en l'occurrence, greffés les religions. Mais de nouveau, il faut savoir comment on peut en sortir. Et là, je reviens à mon propos, c'est qu'on n'en sort pas sans sortir complètement de la littéralité du texte au nom d'une vision humaniste.
Ouais. On est tous d'accord là-dessus. Monsieur Barrier, la seule différence peut-être entre nous est la suivante. Si je suis devant... Alors ici, on a une bonne compagnie, on risque rien, on parle, etc. Bon, très bien. Si je suis devant des jeunes français d'origine maghrébine dans des lycées, ils ont 16, 17 ans, etc. Si je tenais votre discours, il ne serait pas vraiment audible. Parce qu'en gros, vous dites que la religion de vos parents est une religion qui assujettit la femme, qui la force...
Je dis qu'elle n'est pas seule.
Attendez, oui, mais justement, j'aime bien parce que, excusez-moi, je vous dis avec énormément d'amitié, j'aime bien vos oscillations. Parce que parfois, c'est l'islam, et tout de suite après, vous ajoutez, oui, mais ce n'est pas le... Mais il me semble que dès le départ, je signerai... Encore une fois, je crois que n'importe quel intellectuel, en tout cas tous mes amis, tout ce que je connais, etc., signerait avec vous tous vos livres si vous disiez, par exemple, sur la question de la femme et de l'homme, des rapports humains. On peut affirmer avec tous les anthropologues que toutes les religions, sans exception, ont été créées par des hommes pour assujettir les femmes. Toutes, sans exception. Dans toutes les religions, c'est l'homme. Est-ce que je dois vous citer à vous ? Je ne vais pas citer Saint Paul. C'est pas à vous que je vais tester Saint Paul. C'est pas vous que je vais apprendre que qu'il y a eu un concile, paraît-il, dont on dit parfois qu'il est apocryphe, qui a dû décider si les femmes, un concile de l'Église, décider si la femme avait une âme ou non.
Non, mais vous fuyez le problème.
Non, c'est au cœur de la question. Voilà. Non, je suis désolée. Là, on est au cœur du sujet. Non, c'est bien la question qui est posée.
Laissez-moi m'expliquer.
Mais allez-y.
Je dis qu'il fuit le problème parce que la question n'est pas de savoir combien de religions ont assujetti la femme, mais comment on fait que dans telle religion, on sorte de cet assujettissement. C'est là le problème. Et c'est là que je dis qu'il y a une différence actuellement. J'espère bien que ça changera entre... disons, la tradition chrétienne et la tradition musulmane.
D'accord.
C'est tout ce que je dis. D'accord. Alors, on est d'accord.
Sur ce point, d'accord. Et regardons très rapidement comment ça s'est fait. Il y a eu le siècle des philosophes. Il y a eu Voltaire. Il y a eu notre Rousseau national, pas loin d'ici. Il y a eu tout ça. Bon, on ne va pas citer. Il y a eu toute cette évolution intellectuelle. Oui. Je vous signale quand même qu'à l'époque de Voltaire, un jeune homme se faisait torturer et tuer parce qu'il s'était pas...
Le chevalier de la barre. Bon, oui, j'en parle.
Le chevalier de la
barre. Moi aussi, je parle de tout ce dont vous parlez, vous voyez, dans mon livre qui est en vente à l'entrée.
On va finir par... on prend l'engagement devant vous d'écrire un livre à trois. Ça va être un livre d'espoir.
Alors j'aimerais bien qu'on entende Gilbert Sinoué sur cette question de donc l'islam ayant permis aux hommes de trouver en Dieu le garant de leur supériorité, qui est donc l'affirmation d'Étienne Barillet dans son essai dont on a commencé à discuter. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus.
Vous savez, tout à l'heure il m'est venu une phrase que vous connaissez peut-être, c'est un tag qui était dans une station de métro et qui semble résumer complètement notre discussion d'aujourd'hui. C'était « Dieu est mort », signé Nietzsche. Et en dessous, il y avait écrit « Nietzsche est mort », signé Dieu. Et j'ai l'impression que tout ça, finalement, se télescope entre nos théories. Et que s'il existe, il doit se gondoler de rire là-haut, parce que c'est épouvantable. Ou elle. Et peut-être qu'elle est en burkini aussi, va savoir. Non, mais soyons sérieux. Je pense que, effectivement, je rejoins tout ce qui est dit. On n'en s'en sortira pas si on ne ramène pas l'homme au centre du problème. Si, en tout cas, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, cher Fouad, c'est l'islam le problème. D'accord ? Les religions ont toutes été créées d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que saint Paul n'a pas été très tendre avec les femmes. Il est forcé même à porter des perruques et à se voiler et à ne pas parler si on ne leur posait pas de questions. Mais bon, bref, c'est une autre époque. Et aujourd'hui, ce n'est pas ni le judaïsme, ni le christianisme qui est en cause. Aujourd'hui, c'est l'islam. Donc on aura beau se replier sur le passé, c'est un fait accompli. Au nom d'Allah ou pas au nom d'Allah, l'islam aujourd'hui, et le président Sissi, que je n'adore pas du tout, s'est présenté à la mosquée des Lazars il y a quelques mois, avec tous les imams réunis, et il leur a dit cette phrase qui résume parfaitement, je crois, le débat. Il leur a dit « Il n'est pas normal qu'une religion fasse peur à la planète entière ». Et je crois que ça résume assez bien le problème. Et il leur a dit, si elle fait peur à la planète entière, c'est que vous l'enseignez mal. Déjà, je trouve que c'est un acte de courage inouï. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beau parler du passé, de Bush, de machin, l'islam représente une terreur. Aujourd'hui, l'islam représente une terreur. Une femme voilée fait peur, une femme en burkini choque. Et je vais prendre quelque part la défense de ceux qui sont en train de condamner le burkini, et ça me fend le cœur. J'ai une amie dont la fille est morte au Bataclan. Elle avait 18 ans. Et cette femme, récemment, je dînais avec elle, évidemment, elle ne s'en remet pas, c'était sa fille unique. Et il y a ce débat sur le burkini. Elle me dit, Gilbert, comment veux-tu que je raisonne ? Comment veux-tu que quand je vois une femme voilée, ou une femme en burkini sur la plage, me vient pas la mort de ma fille devant les yeux et que je n'assimile pas ce voile à des tueurs, à une religion qui a tué ma fille. Donc vous voyez, le débat est infiniment complexe. C'est devenu un symbole de mort. Je suis désolé. Quand un camion passe à Nice et dévaste des dizaines de personnes, c'est bon, nous le savons, pas d'amalgame, mais c'est l'islam. C'est l'islam qui est porteur de mort. Quand un type prend dans une église et assassine un prêtre, c'est l'islam. Ceux qui sont morts et les parents de ceux qui sont morts, allez leur expliquer qu'il y a deux islams, que c'est pas la même chose, que le prophète Mahomet a dit des versets circonstanciels. C'est impossible. Donc là, le problème, à mon avis, doit se résoudre par les musulmans. Il n'y a que pour régler le problème. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à nos livres, c'est eux qui doivent trouver un moyen de faire ce que nous avons fait dans le christianisme et d'une certaine façon dans le judaïsme. Parce qu'à part les ultra-orthodoxes, tout le monde n'est pas à moitié fou à jeter des pierres le jour du Shabbat sur les bagnoles. Donc voilà, il faut qu'il y ait une reconstruction de l'islam, puisque c'est l'islam qui tétanise la planète aujourd'hui.
Oui, merci de ce que vous venez de dire. Le nom du musulman dont je me sens si proche, c'est Abdennour Bidar, ça me revient maintenant, qui a écrit « Un islam pour notre temps » et qui demande exactement ce que vous êtes en train de demander et de dire. Et c'est lui aussi qui dit que la modernité est un événement spirituel. Je trouve cette formule très belle, parce que la modernité, c'est justement le moment où l'humain devient, je ne veux pas dire juge du divin, mais enfin la mesure, d'une certaine façon, de ce qu'on va trouver sacré et divin.
Un dernier mot, ce sera Fouad.
Profondément, essentiellement, je suis d'accord avec M. Barrier, évidemment encore plus avec mon ami Gilbert, et je suis profondément d'accord avec vous, M. Barrier, sur cette nécessité de mettre l'humain au centre de notre réflexion. Mais il faut, pour résoudre un problème, il faut le voir dans toutes ses facettes. Nous avons un problème avec l'islam, bien sûr. Nous avons un problème théorique de fond essentiel avec l'islam, oui, parlons-en, etc. Ce sont deux facettes, il y en a d'autres. Le côté politique, le côté histoire du XXe siècle, ça compte aussi. On ne peut pas dire ça n'a pas existé. Et en ce qui me concerne, l'homme qui a fait le plus de dégâts dans le XXe siècle, ce n'est même pas Laurent, ce n'est même pas Nasser, c'est Yigal Amir. C'est le jeune homme qui a assassiné Rabin. Parce que Rabin avait la capacité d'être le De Gaulle d'Israël, de mettre fin à cette histoire, de résoudre la question palestino-israélienne. On ne peut pas faire de politique fiction, mais imaginez que Rabin ait pu aller jusqu'au bout, qu'il ait établi qu'il y ait une ambassade d'Israël en Syrie, à Damas, en Arabie Saoudite, partout, que les Israéliens voyagent dans les pays arabes, que les Arabes aillent en Israël, etc. Est-ce que, franchement, est-ce que vous pensez que ça n'aurait eu aucune incidence sur ce que nous vivons aujourd'hui? Il y a d'autres facettes, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse, je suis prêt à en parler, mais si on oublie les facettes politiques, historiques, stratégiques de la question, on ne pourra pas la résoudre.
Vous répondez brièvement à cet aspect, sur cet aspect-là.
Je craindrais de faire rebondir peut-être inutilement la discussion, mais ce que vous dites m'inspire deux choses. Primo, tout à fait d'accord pour Rabin, puisque c'est lui, après tout, qui a dit aussi que la Bible n'était pas un cadastre. Cette phrase, c'est vous qui avez. Mais d'autre part, quant au ressentiment, à l'histoire, à la politique, je ne veux pas nier cette dimension, mais j'ai lu récemment un article qui m'a quand même impressionné, qui parlait des Vietnamiens de France. Le Vietnam a subi, de la part de la France, tout ce que, disons, les pays du Maghreb ont pu subir, en fait, colonisation, et même peut-être pire à certains égards. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit qui ressemble à un acte terroriste ou même violent des Vietnamiens de Paris ou de France. Il y a quand même de quoi réfléchir.
Bien. Allez,
vraiment, et c'est très consensuel. Je veux pas... Mais vous avez raison de dire ça, parce que moi, bon, j'habite à Amsterdam et on me fait toujours cette réflexion. On me dit qu'il y a 500 000 Indonésiens aux Pays-Bas. Jamais nous n'avons de problème avec eux. On a 350 000 Marocains, on a des problèmes avec eux. Et pourtant, ils sont tous musulmans.
Bien, je vais rappeler les titres de vos... Je vous avais dit que le débat... Enfin, on aurait eu besoin de davantage de temps, bien sûr, pour l'explorer, parce qu'il est complexe. Et moi, je retiens quand même une chose. Là-dessus, il y a consensus. C'est que vraiment, il faut aborder cette question-là par toutes les facettes. Voilà, les entrées dans le sujet sont multiples. D'où cette difficulté quand on veut avoir une vision d'ensemble, ce que disait Gilbert Sinoué tout à l'heure, très, très justement. Je voudrais quand même rappeler les titres de vos livres. Foi de la Rouille, ce vin combat que tu livres au monde, donc c'est un roman chez Julliard, Étienne Barillet, votre essai, Vertige de la force chez Bûcher Chastel, et Gilbert Sinoué, le troisième volet de votre trilogie, Les cinq quartiers de la lune chez Flammarion, et merci infiniment à vous trois.